Celle-là avec lui, il est mis dès l'abord, dès le premier paragraphe, une coupure extrêmement nette entre le don et le pas intérêt. Et le don, au fond, ne peut pas se raisonner, se penser, sans référence au pas intérêt. C'est-à-dire, c'est celui qui n'est pas du pas intérêt. Comme si le pas intérêt était la donnée de base, à partir de laquelle on peut penser le don. C'est particulièrement chez Nesh et Ténèbres, c'est probablement aussi une idiosyncrasie, mais c'est quand même caractéristique. Alors ça évidemment, la grande différence, c'est que le côté gratuité totale en référence au message évangélique n'existe pas vraiment chez les latins, pourtant. Il n'existe pas en tant que tel, mais il n'y a pas de correspondance exacte. Mais, malgré tout, il y a cette ouverture de ce côté quand quand il dit il faut pas s'attendre à un retour. Alors d'un côté c'est vous aurez un retour, mais surtout il ne faut pas s'y attendre, parce que si vous y attendez, alors ça relève du vrai intérêt. Mais d'un autre côté, il dit au fond, le véritable don, c'est celui qui n'a aucun retour. Et il parle d'ailleurs des dieux qui nous ont donné beaucoup sans attendre de retour. Donc une des différences, c'est que la coupure entre don complet et don du droit naturel est beaucoup plus floue que chez les anciens païens, forcément, que c'est logique que c'est chez ces théologiens. À l'inverse, à la coupure entre plein intérêt et don du droit naturel est beaucoup plus nette chez les anciens que là. Alors une chose qui m'avait un peu interpellé, si on peut dire, c'est à la fin du texte écrit, où tu sembles esquisser une sorte d'évolution linéaire, un peu évolutionniste jusqu'au XVIIIe siècle. On comprend que Hume, Smith et Adam Smith se font dans la continuité, non pas dans la continuité, mais s'expliquent par une évolution à partir de cette époque. Et là, j'étais tenté de faire la remarque que si Clavero a tort d'isoler son époque, ce que je donnais volontiers, même si je n'ai pas bien détruit le livre de Clavero, il n'est pas forcément non plus légitime d'établir cette sorte de temple qui va. Mais alors, dans ton exposé oral, en tout cas pour la France et certains autres pays comme l'Angleterre, il n'en est plus de même, puisque là tu insistes sur une coupure qui intervient au XIVe siècle et qui évite d'établir cette sorte de montée jusqu'à l'économie politique de la Suisse, que tu expliquais un peu la dernière fois.
Oui, il ne sache plus. Merci pour ces questions qui sont pas tous les points importants que j'attendais.
Alors à part ça, moi je dirais plutôt l'interdiction du prêt intérêt, parce que pour nous il y a l'usure et il y a le prêt intérêt. Et ce qui est pour les médiévaux, les deux sont fonds, puisque tout est interdit. Donc, pour un moderne, dire l'interdiction de l'usure, ça peut établir, évidemment, on est suffisamment averti pour le savoir, mais ça peut établir une confusion. On peut dire, l'usure était interdite, mais est-ce que le point est interdit ?
On peut faire une réponse au suivant avant de passer.
Oui, comme j'en parlais, je n'ai pas parlé, je vais résumer un petit peu l'argument. Le dernier argument, qui est extrêmement important, mais c'était. Alors, il y a un côté polémique contre Clavero qui dit le monde avant la Révolution française est incompréhensif, c'est une autre mentalité, une autre anthropologie, ils sont vraiment différents de nous, ils ne vont pas les comprendre. Et je voulais montrer qu'au contraire, la thématique même de cette question de la gratuité permettait de penser ce qui est en fait un présupposé de la pensée économique moderne, et enfin, j'ai une vision assez simpliste des choses, et je vois la naissance entre le passage entre Hume et Adam Smith. sont très différents. Et les pages m'ont beaucoup marqué, que j'ai lu il y a très longtemps de Hume, sur le commerce désintéressé et l'amitié et le fait, si vous voulez, que toute cette logique de l'échange gratuit, qui est thématisé par les théologiens et par d'autres, et précisément à l'aide de Sénèque, mais que le grand auteur moral récupéré par les théologiens chrétiens au 13e, 14e siècle. Le 14e siècle est vraiment la grande époque du Sénèque, même déjà des années 1260. Alors ça, ça colle exactement à leurs propos, et c'est de dire qu'il y a une partie de l'activité humaine qui est un commerce, parce que Hume a pris formule dans le terme du commerce désintéressé qui s'oppose au commerce intéressé, avec ce jeu de mots sur le fait que le commerce a les deux sens et l'intérêt, enfin la question intéressante précisément, c'est que c'est le terme de intérêt qui vient de cette pratique du prêt à ce qu'on appelle intérêt légitimé par la vente exactement dans la pratique médiévale, qui devient la catégorie de base pour définir une activité intéressée ou désintéressée, donc c'est par opposition, par contraste, par rapport à ce qui est devenu, disons, la modalité centrale des rapports entre individus dans la société, ces rapports intéressés, mais qui n'efface pas le commerce plus noble, dit Hume, de l'amitié de l'intéressé. Donc, il faut dire que c'est pas du tout une notion linéaire que je voulais pointer, au contraire, c'est plutôt une structure qui s'est modifiée, c'est même les termes de polarité s'est inversée, puisque c'est ce qui était pour les théologiens la partie dominante devient une sorte de reste, et l'amitié étant les liens amicaux gratuits étant le reste du champ de la société civile que décrit la pensée économique, et qui est ce que nos amis du mouvement anti-utilitariste voudraient prendre comme paradigme, qui ne disparaît jamais. Mais je voulais juste pointer par là le fait que la pensée économique présuppose une sphère d'activité humaine désintéressée, ce qui est une chose à la fois triviale, si on pense bêtement, à la façon de nos vies, voilà, mais pas que les économistes peuvent parfois, enfin souvent, ou toujours oublier. Voilà, je pensais que cette structure-là, qui permet l'existence d'une pensée économique, on peut voir alors, des racines dans le sens d'une problématique qui se transforme et qui remonte effectivement à Sénèque. Je parlais du 13e siècle, donc je suis pas invité, et je parlais de l'usage de Sénèque, mais c'est bien que ça. Je crois que je le cite peut-être une fois au passage. Mais c'est vraiment extrêmement important pour ces auteurs-là, pardon. Pas les théologiens, mais des moralistes chrétiens qui font, qui parlent justement de faire des mouvements de qu'est-ce que c'est que la bonne vie, Donc pour dire que c'est pas linéaire, mais c'est vraiment, je voulais vraiment pointer là une structure qui me paraît importante, et c'était le point le plus important de l'article en réalité. C'est en ce sens-là. Et c'est pas opposé à ce que j'ai dit aujourd'hui, dans le sens où là, j'ai pointé un autre élément de cette dépénalisation, mais c'est, pour reprendre le nom le plus frappant, c'est l'antéronat, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas bien moralement de fumer, l'Église ou d'autres autorités morales, ou les parents s'y opposent, n'empêche que ce n'est pas puni par la police, à moins que de taxer aux autres fonctions. Donc c'est vraiment exactement la même distinction, qui est une chose que tout le monde fait, plus ou moins grande échelle, mais qui voulait condamner qu'à un certain niveau, et c'est tout ce qui me paraissait utile de... Enfin, ça, c'est juste pour me corriger si je me trompe, j'avoue, c'est pas dit ou pas assez dit, ce basculement politique de la question, qui fait que, tout en gardant, et ça reste dans le monde catholique jusqu'au XVIIe siècle, même encore au XIXe, il y a des débats sur la question de l'usure, en réaction à la tradition de l'usure, c'est réglé à partir de Calvin dans le monde protestant, c'est une première décision, une rupture très forte, une des ruptures fortes culturelles entre le christianisme, enfin, le christianisme romain et le mouvement réformé. Donc ça reste un point d'identification des catholiques jusqu'au monde. Enfin, après, où on est maintenant l'Église catholique avec le pré-intérêt, c'est extrêmement flou, mais je pense qu'il y a une très grande difficulté à admettre la légitimité de cette chose. Donc c'était pour dire que l'opposition de l'Église peut aller de pair avec une question politique qui fait que ça peut se pratiquer dans certaines limites, et la question qui importe est vraiment cette définition politique d'un taux usuraire inacceptable qui est la définition moderne de l'usure. Et que cette définition moderne, en réalité, on peut dire qu'elle est entérinée à ce moment-là par les rois de France, de même que... Alors, il y a d'autres modalités de la gestion du problème en Italie, mais... c'est compliqué de faire ça, prendre des choses tout à fait différentes, mais dans la gestion de la dette publique des cités italiennes, on a aussi des modalités qui arrivent à dire qu'il y a un taux minimum usuraire acceptable, et le débat, c'est où est ce taux, où peut-il se passer. Est-ce que c'est pas vu qu'à ce moment-là, c'est au XIVe siècle, et ce qui explique aussi que dans les grands débats théoriques sur l'usure, on a les derniers les thèmes reconnus dans les années 1304, pas 1330 en fait. Et après, c'est une question totalement réglée, enfin, plus tard, il n'y a plus de vrais débats vifs. Ça reprend quand il y a des formes contractuelles neuves qui réapparaissent, et où il faut débattre, est-ce que ce contrat-là est un contrat directement usuraire, ou sous quelle forme il ne l'est pas, etc. Donc c'est un... Voilà, je pense qu'il y a une transformation qui est définit presque un ancien régime sur la question politique, enfin, du traitement politique de l'usure. Et peut-être que c'est pas une généralisation abusive que je fais aux explications.
En mécanique, on a une prescription de Gustave qui définit une mesure grave, qui tolère du coup une mesure légère. Et du coup, on est pas loin de la situation en même.
Voilà, alors oui, j'oubliais de dire effectivement les deux éléments de les intérêts composés et que les athées et les passions capitales, c'est des points qu'on voit ressurgir dans les statuts, car j'en ai quelques-uns en tête, les statuts urbains du 13e siècle, et ça s'est entériné aussi par la récupération du droit romain, parce que c'est quelque chose qui est aussi assez commun, je crois. Voilà, c'est ça.
Et c'est un gros moment de débat qui est intéressant sur le.
Voilà, c'est parce qu'il y a des formes contractuelles, on se demande qu'est-ce que fait, est-ce que ça rentre ou non dans ce cas, et à quel titre ça peut être excusable ou
il n'est pas très limite. La rente constituée, c'est vraiment un gros moyen de lever de l'argent. C'est, à mon avis, important peut-être de revoir la question de l'argent, mais c'est pas très. C'est pas une bateau du côté des écologies, en fait. Donc, à ce moment-là.
C'est
plus une question
purement juridique, c'est intéressant pour toi. Non, mais c'est pas ça, j'essaie de. Je travaille aux solutions parce qu'on a 25 et 1695, donc c'est très difficile.
C'est juste un point. Clavero, dans mon souvenir, lui, qui étudie, c'est des textes de théologiens et de juristes qui défend la position dogmatique de l'Église. La position dogmatique, en gros, est l'économie du salut. Donc, dès lors que l'Église catholique, si je comprends bien, en fait, refuse de distinguer entre le monde du qui-va et le monde du salut, automatiquement, on ne peut pas accepter l'idée que autre chose que des relations de pur amour soient présentes ici-bas. Pour moi, le problème est complètement réglé. Ensuite, il y a autre chose, il y a la vie réelle, et ce qui se passe, et là, il y a l'agrément. Mais ces trucs-là, est-ce que c'est pas vraiment ça qui rappelle qu'il y a toujours cette espèce de réaffirmation?
Oui, ça revient sur ce que mon avis. D'une part, Pedro ne comprend pas les textes qu'il étudie vraiment. Il y a des constructions et des contresens. Il voit qu'une petite. Il prend un petit morceau du problème pour la totalité. Et il ne voit pas, là, on a l'exemple que je donne de l'Assemblée d'Orléans avec les prélats qui n'octroient ni ne contredisent d'un article. Ça définit exactement la position de l'Église. C'est-à-dire que ça nous met mal à l'aise, mais ça se fait comme ça, et c'est le roi qui décide, c'est pas nous. Donc, je ne connais pas assez bien l'Espagne du 17e siècle, mais ce n'est pas les théologiens qui font la loi réellement. Et même s'il y a une volonté d'avoir une monarchie catholique très fortement affirmée, on ne peut pas prendre les textes des théologiens et dire que c'est ça la pratique. Or, c'est l'opération, ça fait Clavero. Et comme il veut sur un schéma marxiste, il en arrive à parler d'un mode de production anti-dora, donc fondé sur cette forme, non mais c'est du jamais total, de. Il n'a étudié que des textes de théologie, il dit la pratique c'est celle-là, on peut la déduire de cette chose-là, et les textes qu'il a en plus mal interprétés. Donc c'est. Voilà. Oui. Alors, l'autre point, au contraire, je pense que s'il y a eu un moment précis où effectivement les théologiens ont voulu faire de la politique et ont pensé qu'ils pouvaient proposer un modèle politique fondé sur le pur amour, c'est exactement cette période-là, 1280. 1260 environ, qui est cette période dont je parlais dans l'article, et qui est ce moment où les théologiens voudraient proposer un modèle de société basé sur des relations purement gratuites entre et où des rois comme Saint-Louis croient. Voilà, et c'est un modèle qui a duré un temps, mais n'a pas subsisté au-delà, même si c'est resté présent dans une idéologie. Donc le mot que j'emploierais, c'est.